Bien, ben, merci pour votre patience. Et maintenant que nous sommes au complet, nous allons donc pouvoir commencer cette table ronde intitulée « Les dragons, mythiques et fabuleux » avec Pierre Pevel, que vous connaissez tous, qui possède le titre de grand dragonniste France, n'est-ce pas, avec la trilogie de Wielstadt, « Les lames du cardinal »,« Au royaume ». Manifestement un monsieur qui aime les dragons. À côté de lui, Marie-Charlotte Delmas, qui travaille plutôt sur le folklore des dragons, hein, on peut dire ça, Marie-Charlotte, avec entre autres le légendaire des dragons, et puis le grand légendaire de France, dans lequel elle aborde beaucoup de lieux où il y a des dragons. À côté de Marie-Charlotte, Xavier Mauméjean, qui est un écrivain inclassable parce qu'il écrit dans beaucoup de genres différents. Son dernier roman paru, c'est American Gothic. Vous en avez un qui va sortir, Xavier, là, dont le titre est...
Fin août, Kafka à Paris, sur une sorte de roman steampunk avec Kafka, le jeune Kafka, à Paris lors de ses vacances, qui est basé sur des faits réels.
Très bien. Mais vous êtes ici parce que vous avez écrit aussi un autre roman qui s'intitule « Rosée de feu » et dans lequel nous avons des dragons japonais pendant la guerre du Pacifique. Et enfin, est-il même besoin de la présenter, notre invitée américaine, Robin Hobb, qui est là, bon, elle a une œuvre énorme, importante, multiple, mais en ce qui concerne les dragons, nous allons plutôt, je pense que vous avez tous lu tout d'abord Les Aventuriers de la Mer, puis ensuite Les Cités des Anciens, où là, il y a beaucoup de dragons. Donc, sans plus attendre, je pense que la première chose à faire, ça serait peut-être d'essayer de définir un petit peu ce que sont les dragons. Alors peut-être Marie-Charlotte Delmas, vous pourriez nous en parler. La figure du dragon traditionnel dans le monde occidental.
Un, deux, c'est bon. Oui, moi je n'ai travaillé que sur le dragon occidental parce que chaque ère géographique est une ère culturelle, voilà, avec toute une série de contextes qu'on ne peut pas mélanger. Toujours être prudent avec les traductions des termes. En fait, ce qu'on met sous le dragon peut être excessivement différent. Les premiers dragons de l'histoire que l'on connaît sont ceux des textes, on va dire, assyro-babyloniens, pour faire vite, c'est-à-dire deux millénaires avant nous et avant notre ère. Ce sont les dragons que la mère abîme, une sorte de déesse mère, Tiamat, dans le poème de la création babylonien, va envoyer pour se bagarrer. Ce sont des dragons géants, etc. Mais qu'étaient ces dragons géants? En fait, on n'en sait rien, parce que quand on regarde l'image des dragons que l'on peut voir encore aujourd'hui au Louvre, en reproduction sur les portes de Babylone, c'est-à-dire sur la porte d'Ishtar à Babylone, on s'aperçoit que ces dragons sont des grands chiens. Voilà. Ensuite, le terme dracon en grec veut dire fixité du regard. C'est la fixité du regard des serpents, c'est la fixité du regard magique dans toutes les civilisations, qui est celui de la fascination. Et qui restera d'ailleurs pour encore en Europe au XIXe siècle, on craint la fascination à la fois des serpents, mais aussi de ces dragons atténués que sont les vouivres, par exemple, ou les basiliques, auxquels on croit encore. Chez les Latins, draco, ça veut dire tout à la fois dragon et serpent. Voilà. Et quand le grand naturaliste Pline, au 1er siècle de notre ère, parle des dragons, dans le même texte, il va l'appeler dragon et serpent. Ambroise Paré fait la même chose dans son livre, voilà, naturaliste 16e, dragon, serpent. Voilà. Et alors oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut bien se remettre dans des contextes de l'époque. C'est-à-dire que, au 1er siècle de notre ère, par exemple, il faut savoir que le dragon n'est pas plus merveilleux que l'éléphant. Le dragon, il est ailleurs. Et quand quand Pline, par exemple, parle des combats entre les serpents, les dragons, Draco ou Dracon, et les éléphants, l'éléphant est beaucoup plus merveilleux. Voilà. Donc ce dragon, on va y croire de façon importante jusqu'au 16e, 17e siècle, même s'il est ailleurs, même s'il est machin. Peut-être qu'on verra après pourquoi on y croit et d'où vient la légende du dragon. Voilà, je ne veux pas monopoliser.
Non, mais c'était très intéressant. Merci Marie-Charlotte. Xavier Mauméjean, vous pouvez peut-être justement nous montrer, vous, quelles sont les différences, parce que le dragon oriental est complètement différent du dragon occidental.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Marie-Charlotte concernant l'éléphant. Une anecdote pour situer l'imaginaire du Moyen-Âge et de la Renaissance. Quand Marco Polo était en Chine, Kublai Khan lui avait présenté un rhinocéros. Et Marco Polo n'avait absolument pas été surpris. Et dans son journal, il note « Aujourd'hui, j'ai vu une licorne, elle n'était point charmante. » Donc, l'imaginaire donc se structure autour des animaux. Alors justement, oui, c'est très vrai. J'ajouterai à la très jolie présentation de Marie-Charlotte les dragons orientaux, qui sont d'abord chinois. Donc le dragon chinois s'appelle Long, ce qui désigne l'espèce qui elle-même en compte quantité de sous-espèces. Il y a des dragons en Chine qui peuvent se dissimuler derrière un brin d'herbe. Il y a le dragon primordial, le Tianlong, qui veille sur la Chine, qui dort en général, mais il est toujours là au cas où la Chine aurait des ennuis. Et entre ce tout petit dragon et le dragon primordial, il y a une infinité de dragons. Alors, les dragons chinois se caractérisent par deux choses. Ils ont cinq doigts, on appelle ça des doigts. Et ils ont des pierres précieuses dans la tête, qui sont les pierres Ma et les pierres Ni, qui sont des pierres qui leur permettent de voler et qui sont très recherchées. Le dragon japonais en est une variation. Il s'appelle le Ryu. Lui n'a que quatre doigts, mais somme toute, c'est le dragon chinois adapté au Japon. Alors, moi, dans mon roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un roman sur les kamikazes. Donc, comme la plupart du temps, le roman allait se passer dans les airs, j'ai voulu imprimer la culture du Japon dans le ciel, et le plus simple, c'était les dragons. Mais je voulais les faire de manière réaliste, parce qu'ils allaient être sacrifiés à l'effort de guerre. Donc, il y a des reines dragons qui pondent, comme un abattage des dragons qui sont massacrés dans le ciel, notamment à partir de l'attaque kamikaze. Et je voulais les rendre réalistes, donc à toute cette... variété de légendes que j'ai repris, les pierres Ma, Ni, etc. J'ai ajouté des éléments techniques. Par exemple, si un dragon crache du feu, il a forcément un retour de flamme. Donc j'ai pris chez le crocodile le clapet de gorge qu'il a, qui fait que le crocodile ne se noie pas. Pour expliquer à la fois qu'il crache du feu et qu'il puisse voler, alors qu'il est lourd, j'ai supposé qu'il avait de l'hydrogène dans le sang et que, par exemple, les bébés dragons, dans l'œuf de dragon, l'albumène est saturé d'hydrogène de manière à ce que le dragonnet soit, dès le début, nourri de ça, ce qui permettait en plus d'utiliser un œuf de dragon comme bombe à hydrogène sur les villes japonaises, ce qui était très bien, ce qui me permettait de mélanger extrême tradition et modernité. Voilà.
Merci Xavier Mauméjean. Comme ça permet à nous tous d'avoir les idées un petit peu plus claires sur les différentes variantes de dragons. Et ce qui m'a fasciné en lisant vos différents livres, c'est que bon, il y a une infinie variété de dragons dans leurs aspects physiques, etc., mais aussi dans la psychologie des dragons. Je crois que C'est un terme qui est parfaitement adapté. C'est que dans vos différents romans, vous avez des dragons qui ont des psychologies tout à fait différentes. Alors je me faisais la réflexion, Pierre Pevel, en écoutant Xavier Mauméjean, que le dragon que vous avez mis en scène dans la trilogie de Wielstadt, finalement, il se rapproche du dragon oriental, qui est l'espèce de puissance tutélaire protectrice du pays.
Le dragon de Wielstadt, il est unique. Je dis d'ailleurs que c'est le dernier grand dragon d'Occident. Il s'approche plus d'une puissance naturelle, voire d'une catastrophe naturelle. Il veille sur la ville de Wielstadt comme un dragon veille sur son trésor. Sa présence n'est pas expliquée. Ses motivations sont pas expliquées non plus. Soit il n'a pas de psychologie, il est juste une créature qui fait ce qu'elle fait par pur instinct. Soit, et c'est plutôt l'idée qui m'intéresse, il n'est pas plus compréhensible et appréhensible même par les humains que nous le sommes par des fourmis. Quoi. Sans doute a-t-il ses raisons, mais il appartient à une autre réalité. Pour lui, l'humanité ne représente pas grand-chose. C'est au début du premier roman où j'explique qu'en fait, quand il voit, il perçoit les âmes des humains en fait. Et ce qu'il voit, en fait, c'est des clignotements. Il vit dans un autre temps, et donc tout ça clignote plus ou moins vite, mais ça ne va pas au-delà pour lui. Donc voilà, ça, c'est un des aspects du dragon possible qui, en effet, peut revêtir bien des formes et prêter le flanc à bien des interprétations très différentes.
Oui, là, c'est vraiment le dragon, c'est la puissance tutélaire. Il est là, il protège, enfin, il protège avec ambiguïté la ville, parce que quand il défend sa ville, qui, comme vous l'avez dit, est en quelque sorte son trésor, qu'on réalise très bien ce que ça représente pour lui, mais on s'aperçoit que des fois, lorsqu'il protège sa ville, finalement, il en détruit quand même en même temps.
Oui, il la protège de la guerre, donc lorsque des armées viennent s'en prendre à Wielstadt, il la défend, mais il est aussi capable de la défendre de l'intérieur et de manière assez radicale. Tous les Wielstadteurs dans mon roman se souviennent d'une émeute qui allait opposer catholiques et protestants, et les choses manquaient de mal tourner, le dragon est intervenu, quelques jets de flammes, il a calmé tout le monde et chacun est rentré chez soi. Enfin, ceux qui pouvaient encore rentrer chez eux, évidemment.
Et chez vous, justement, Robin Hobb, nous avons une autre variété de dragons au niveau psychologique, parce qu'il y a ces dragons, en particulier dans les cités des anciens, qui sont des dragonnés, qui sont déjà des créatures assez puissantes pour certaines, moins pour d'autres, puisqu'elles ont des problèmes physiques lors de la maturation dans les œufs, mais qui en même temps sont des créatures intelligentes, mais qui ont le niveau psychologique d'enfants qui ne connaissent rien et qui découvrent le monde.
I wanted to go. I enjoy basing my magic somewhat on biology. So I wanted to think about a very large predator that would be intelligent and that would regard us much as we regard whales or elephants. We are willing to concede that these are species that seem to have, in some cases, a language, in some cases, a matriarchal culture, but we don't give a great deal of thought to regarding them as anywhere near our equals. So in working with the dragons, I wanted to put in the aspects of a very large predator that was as arrogant as a human being would be.
J'aime bien fonder la magie dans mes livres sur, au moins en partie, sur des aspects biologiques. Et j'avais envie de réfléchir à un grand prédateur qui serait intelligent et qui nous considérerait un peu avec le même regard que nous-mêmes nous portons sur les baleines ou les éléphants. C'est-à-dire que ce sont des espèces qui semblent avoir un langage, qui ont apparemment une structure sociale matriarcale, mais que nous ne considérons pas vraiment comme nos égaux. Donc en fait, en évoquant le dragon, j'avais envie de prendre justement l'aspect du prédateur de très grande taille et qui serait finalement aussi arrogant qu'un être humain.
qui serait aussi arrogant qu'un être humain. On le voit dans la manière dont il traite les humains qui s'occupent d'eux. En fait, il nous considère comme des sortes d'animaux domestiques qui sont là à leur service pour assurer tous leurs besoins.
Exactly, but that is only a very small group of humans that the dragons regard in this light. Other humans that they do not know, they have not interacted with, they would have very little care for. They can seem childish, but in the same way that if you take humanity as a whole, we are childish. We remake the world to suit ourselves.
Exactement, mais c'est cela ne concerne qu'un très petit groupe d'êtres humains qui sont considérés de cette façon. D'autres, avec lequel ces dragons n'ont eu aucune interaction, ils s'en moquent dans une grande mesure. C'est vrai que ces dragons peuvent sembler puérils d'une certaine manière, mais de la même manière que l'espèce humaine prise dans son ensemble peut être considérée comme puérile, puisque nous refaçonnons le monde de manière à nous convenir et à notre image.
Alors c'est donc Tintaglia qui est le dragon qui est le plus proche des humains, puisqu'elle elle utilise les humains pour refaçonner le monde comme elle l'entend. Elle nous utilise comme elle l'entend.
Well, with a bit of fear of doing spoilers, I will cover your ears if you haven't read the Rainwild Chronicles. She emerges mature and complete. Mm-hmm. And this is why she is a different creature to the ones who have not correctly migrated to the spawning grounds in their cycles, to the hatching grounds in their cycles, the ones who do not retain their... in my story, they do not retain an ancestral memory, and so they are in some ways fumbling through the world.
Alors, je voudrais...
Non, ne découvrez pas les oreilles encore. Maintenant, il y a la version française.
Répondre. Donc, je voudrais répondre, mais en craignant un peu de dévoiler l'intrigue en avance. Donc, si vous n'avez pas lu La Cité des Anciens, prenez garde de bien vous couvrir les oreilles. Ça va ? Ok. Quand Tintaglia émerge de son œuf, elle est à la fois mature et complète, ce qui explique qu'elle soit d'une nature différente, comparée aux autres dragons qui n'ont pas effectué le cycle biologique complet, notamment qui n'ont pas migré jusqu'à la zone d'éclosion. Donc ils ne gardent pas de souvenirs ancestraux, ce qui explique pourquoi, d'une manière ou d'une autre, ils découvrent le monde un peu par essai et par erreur. C'est bon.
Ça y est.
Alors, je voudrais revenir sur le spoiler de Robin.
Non, on va éviter de rebondir sur le spoiler de Robin. Mais ben, justement, Xavier Moméjean, chez vous, vos dragons japonais, le problème de la conscience ne se pose pas. Ce sont des sortes de machines, quasiment, de machines animales qui sont utilisées par l'armée.
Oui, alors tout à fait, on peut même pas dire qu'ils sont bêtes ou qu'ils ont cette grandeur qu'a le dragon de Wildstadt. On n'en sait pas grand chose. Ils sont beaux dans la représentation des humains, mais ils sont bêtes. Et les pilotes japonais qui les connaissent depuis toujours, puisque les dragons japonais sont une réalité dans le roman depuis toujours. N'ont pas spécialement d'affect. Le mieux qu'il puisse y avoir, et c'est le cas que d'un seul pilote, c'est qu'il est attaché à sa monture comme un cavalier laid, mais guère plus. Mais les autres pilotes n'y sont pas attachés. Et puis, au fur et à mesure de la guerre, comme déjà les kamikazes, ça concerne les pilotes, il y a de moins en moins de pilotes, l'attachement n'est plus trop à l'ordre du jour dans l'armée nationale impériale. Donc les dragons, ils en reçoivent régulièrement puisqu'ils sont pondus à la chaîne Et tout le, la beauté de la culture nippone est galvaudée par cet effort militaire. S'il y a un beau dragon, un dragon femelle blanc qui a été obtenu par croisement un peu comme les carpes koi et qui a deux taches rouges sur ses ailes, mais c'est histoire de frimer à l'état-major de la marine japonaise. mais non, les malheureux, ils sont assez mal... Ceux qui sont beaux, en fait, sont les B-29, mais ils sont en acier, ils sont américains.
Mais c'est vrai que ces dragons, on a l'impression qu'ils n'ont même pas le niveau de conscience d'un cheval.
Oui, du tout, ils sont... En fait, on n'en sait rien, et moi-même, j'en sais pas grand-chose, parce que le but dans le roman était de les rendre très beaux, mais de désamorcer, de montrer comment on peut avoir dans son monde, dans la nature, quelque chose de très beau, mais dont on ne fait aucun effort pour le comprendre et qu'on va détruire, qu'on va gâcher au nom d'un idéal, en plus, qui est très contestable. C'est vraiment la pièce sacrifiée du Japon. Et sans vouloir faire trop dans le symbolique, c'était l'idée que je voulais aussi traduire, c'est que la beauté du Japon a été... sacrifié dans ces années d'impérialisme au nom de toute autre chose. Oui, ce sont des créatures pauvres.
C'est d'ailleurs d'autant plus perturbant lorsqu'on lit votre livre qu'on sait que dans la culture japonaise, il y a la culture du beau, on a ces hommes, ces artisans qui sont des trésors vivants, on a des temples de l'architecture extraordinaire, même des boîtes de lacs, etc. Et donc là, c'est vraiment, comme vous le disiez... contraire quelque part à l'esprit nippon.
Ah bah oui, juste une dernière chose, je ne vais pas monopoliser, mais par exemple dans la légende du dragon japonais, il est dit que quand le dragon ouvre les yeux la première fois, il s'attache au premier être vivant qu'il voit. Et donc la chose a été bien comprise par les techniciens de la marine impériale. Donc les dragonnés, avant qu'ils ouvrent leurs yeux, on leur coud les paupières de manière à ce que les amener jusqu'à leur pilote, on découd les paupières et comme ça l'attachement est fait, la monture est fiable dans le ciel. Donc même la beauté de la chose est complètement galvaudée pour la guerre. Voilà.
Pierre Pevel, maintenant chez vous, il y a d'autres dragons. On a parlé d'abord du dragon de Vielstadt. Là, on vient de voir des dragons qui sont au plus bas rang de la conscience animale. Puis dans les lames du cardinal, on a l'inverse, on a des dragons suprêmement intelligents et dont le but avoué est de se mêler des affaires humaines et pas forcément pour notre bien.
Dans les lames, les dragons sont une autre race intelligente, comme pourrait l'être une race extraterrestre. Ils ne sont pas suprêmement intelligents, il y en a, mais ils sont aussi intelligents que les êtres humains, donc il y a peu de chance, ils ne sont pas nombreux à l'être, du coup, suprêmement intelligents. Mais oui, il y en a. Certains sont animés de mauvaises intentions. Bon, c'est pas le thème du bouquin, qui est un roman de cap et d'épée, d'aventure. Mais l'idée, c'est que, en gros, deux races intelligentes se sont bagarrées pour un même écosystème qui est la Terre. Les deux races étant les humains d'un côté, les dragons de l'autre. Il se trouve que c'est nous qui avons gagné. Et donc les dragons, ont soit le choix de disparaître, soit grâce à la magie, se sont cachés, ont pris apparence humaine et vivent cachés parmi les hommes. Donc ces dragons-là, oui, mes dragons dans les lames sont intelligents et ils représentent du point de vue moral tout le spectre possible, imaginable. Il y a des franches ordures, il y a des altruistes et il y a la grande majorité au milieu qui essaye de mener sa barque sans trop de mal.
Curieusement, d'ailleurs, ce sont les ordures qu'on aime le plus.
En tout cas, c'est les plus amusants à mettre en scène, oui. Mais il y en a quand même quelques... Je ne vais pas dire gentils, mais il y en a qui sont plutôt du côté des êtres humains, quoi.
En plus de cela, dans les lames du cardinal, vous avez accordé à vos dragons un pouvoir tout à fait particulier, je pense peu courant. Ils sont capables de se métamorphoser.
Oui, grâce à la magie, ils font ça, à tel point d'ailleurs que de génération en génération, ce pouvoir et enfin cette capacité à prendre apparence humaine est devenue presque leur forme naturelle. Et en fait, ce qui a créé que les dragons des anciennes générations, qui eux peuvent redevenir dragons s'ils le veulent, n'ont pas beaucoup d'estime, voire du mépris pour les dragons des dernières générations qui, eux, sont même plus capables de reprendre leur apparence draconique, bien qu'étant dragons. Ils ne peuvent le faire que grâce à une drogue ou au prix de terribles efforts. J'aime bien cette idée de race qui se dévoyait doucement avec un racisme interne aux dragons. Là, pour le coup, c'est les vieux dragons qui regardent les petits jeux en disant « Mais toi, tu peux même pas te transformer, t'es pas un vrai dragon. » Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, au niveau de la beauté de l'âme et de la noblesse des sentiments, pour le coup, ils n'ont pas de leçon à donner. Quoi.
Robin Hobb, là, ce que vient de dire Pierre Pevel, c'est aussi un peu ce que l'on retrouve dans vos dragons des cités des anciens, cette espèce de racisme sous-jacent. Alors, il y a le racisme des humains envers d'autres humains, et puis il y a le racisme des dragons entre eux, là, sur des critères plutôt physiques, d'ailleurs, au début, et aussi, comme vous le... Ah non, spoiler, à nouveau. Bon, et selon le niveau de mémoire qu'ils ont.
Well, again, it's very specific to that story. I think all over the world we've always seen human beings dividing themselves up into groups. It's always us, and then there has to be a them. So I think that with any species, and we see it with elephants too, there is an us and there is a them. So when I am working with a semi-biological model for magic, and you have a species that is intelligent, then I look at things like and say, well, an animal of this size, a creature of this size, would need a large hunting territory. Would they be willing to share it? Not very likely. And so immediately they would be either forming mating bonds or other alliances, much as when the bull elephants are separated. And you would get the us against them, and I think it goes with more or less modeling the dragons on very large predators that we know of in our world, or in the case of elephants, they obviously are not predators, but they are large creatures that require a big territory, and need a social structure to survive. So it's kind of coming at it from that end of the spectrum and saying, what are their wants? What are their needs? How much do they care about humans? Wants and needs are going to come first.
Encore une fois, ça a trait à cette histoire en particulier et c'est un ressort de cette intrigue. Quand on regarde à travers l'ensemble de notre planète, les êtres humains s'agrègent en communautés différentes et très fréquemment, on voit apparaître une espèce de mentalité. Nous, il y a nous et il y a eux. Et il faut toujours qu'il y ait un eux avec lequel il y a une opposition. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit toujours dans notre espèce. Ça, on voit par exemple ça aussi chez certaines espèces animales, par exemple chez les éléphants. À partir du moment où je modélise ma magie, où je la fonde sur un modèle qui est semi-biologique, et que j'ai donc une espèce intelligente avec un animal de grande taille, la logique dicte que cette créature doit avoir un très grand territoire de chasse. Et à partir où il y a cette donnée, est-ce que cet animal est prêt à partager ce territoire ? C'est certainement improbable. Donc ça veut dire qu'il va falloir fonder des liens, par exemple des liens de couple, des liens de reproduction, d'autres alliances. Ça ressemble un peu à ce que l'on voit chez les éléphants aussi, où parfois les grands mâles sont expulsés du groupe. Il y a toujours cette notion de nous et eux. Et donc à partir du moment où j'ai modélisé ces dragons, je les ai un peu calqués sur ce que l'on sait des grands animaux, des grands prédateurs. Dans le cas de l'éléphant, c'est pas un prédateur, mais dans le cas de ces grandes espèces qui ont besoin de grands territoires. Et à partir du moment où ils ont besoin de grands territoires, pour survivre, il faut qu'il y ait des structures sociales. Donc ces dragons-là sont des besoins, ont des désirs, et à partir de là, on peut se poser la question, quelle va être la place de l'espèce humaine dans ses besoins et ses désirs ? Les besoins et les désirs vont passer en premier.
c'est aussi ce qui se passait, mais à l'inverse, Robin Hobb, dans les aventuriers de la mer, où là, ce sont les humains qui utilisent, a priori sans le savoir, les dragons dans l'autre sens, parce qu'avec les...
Spoilers.
Ah. Non, je pensais que... Est-ce que tout le monde a lu Les Aventuriers de la mer? Non. Ah, zut. Bon. Alors... on arrête la question. Là, je suis désolé, mais je pensais quand même que là, beaucoup de gens l'auraient lu. Mais je pense que vous êtes tous précipités sur la suite de l'Assassin Royal qui vient de commencer après le... Bon, alors, je saute la question. Tant pis. Non, c'est vrai, c'est dommage, mais bon, là... Alors, revenons, en espérant ne pas faire de spoiler avec Pierre Pevel, parce que dans...
Moi, je veux bien répondre sur les romans de Robin.
Non, mais ça sera pour une autre table ronde. Et quand Robin aura lu Les Lames du Cardinal en anglais, comme ça je pourrai l'interroger sur vos romans, on pourra faire des échanges. Ça sera très bien. Oui, dans Au Royaume, vous mettez en scène encore une autre variante de dragons, là encore tout puissants, qui ont été les rois du monde et les rois des humains. Donc je ne crois pas que je spoil, même sur la quatrième de couverture, on peut le lire. Donc ça va, je me méfie un petit peu maintenant quand même. Et donc là, ce sont vraiment l'incarnation des rois d'Aragon, quelque part.
Là, oui, je voulais encore aborder... moi, j'aime vraiment beaucoup les dragons, donc j'ai du mal à m'en passer, mais je voulais les aborder de manière différente de ce que j'avais fait dans mes précédents livres. Et dans Au Royaume, les dragons sont une race divine qui a en effet régné sur le monde, mais plus que comme des rois, mais vraiment comme des dieux, d'un Olympe. Mais qui ont, au fil des siècles et millénaires, et suite à un grand cataclysme provoqué par un des leurs, ont perdu une partie de leur pouvoir et une partie de leur divinité. Ça reste des adversaires conséquents, faut pas leur faire guili-guili sous la mentounette, mais ils ont quand même plus les pouvoirs divins qu'ils avaient.
Il y en a quand même une, je suis en train de rechercher.
Comment t'as traduit mentounette?
Il y a quand même encore le dragon noir qui règne donc sur Isgard, et là qui est capable en plus comme d'avoir des enfants qui sont des hybrides.
Oui, il crée des rejetons qui ne sont pas très sympathiques à fréquenter.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Comment s'y prend-il? Ce n'est pas dit dans le livre, parce que moi je ne suis pas sûr de la manière dont il s'y prend. Mais en tout cas, il y arrive et il crée des créatures humanoïdes, mais qu'on surnomme les princes dragons, et qui sont en fait dépositaires ou légataires d'une partie de sa puissance, et qui donc se posent là aussi sur un champ de bataille et quand il s'agit d'être écouté par une armée. Parce que un des derniers dragons qui vit encore sur Terre et qui a gardé, lui, à la différence de tous les autres, la zone qu'il contrôlait jadis et qu'il contrôle toujours. Et oui, c'est le dragon noir, c'est pas le plus sympathique de la bande. Et il pose quelques. Il donne du fil à retordre à mes héros.
Alors, on fait, moi, ce que j'aimerais aussi savoir, parce que. Vous avez tous utilisé beaucoup les dragons. Qu'est-ce qui vous fascine chez les dragons?
A long time ago, I read an essay. I wish I could remember who it was by. And this man was theorizing that part of the reasons that Jean-Luc and I are fascinated with UFOs and part of the reason that we invent fantastic creatures is that humanity as a species is lonely, that we would like to have either a big brother who either protects us or a big brother who either perhaps picks on us like some big brothers, something to reach out to that would be on an equal footing. It was a fascinating essay, and it made me start to think about how we would react if there was another intelligent species on our planet that we also regarded as an equal, that was intellectually equal and powerful. So once a writer starts thinking about these what ifs, the stories start to unfold. So that was the part of why I think I write dragons.
Il y a longtemps, j'ai lu un essai, je n'arrive plus à me rappeler l'auteur, mais qui dit qu'une partie des raisons pour lesquelles, par exemple, Jean-Luc et moi sommes fascinés par les ovnis, des raisons pour lesquelles nous inventons des créatures fantastiques, c'est que l'humanité, en tant qu'espèce au sens large, se sent seule. C'est-à-dire que peut-être parfois nous aspirerions à avoir un grand frère qui peut-être nous protégerait, ou même au contraire qui nous tourmenterait un peu. Quelque chose vers qui tendre la main, ou quelqu'un vers qui tendre la main, et peut-être avec qui nous sentir un pied d'égalité. Et j'ai commencé à réfléchir, à me demander comment l'humanité réagirait si nous n'étions pas la seule espèce intelligente sur la planète que nous considérerions, ou avec qui on se poserait des questions concernant l'égalité au niveau de les capacités intellectuelles et de la force pure. À partir du moment où un auteur commence à se poser ce genre de questions qui commencent par « et si », en général, une histoire commence à se dévoiler. Et je pense que c'est ça fait partie des raisons pour lesquelles j'écris des dragons.
Oui, cette question que pose Jean-Luc, c'est une question que se posent les historiens. C'est une question à laquelle ils ont réfléchi et travaillé. Non pas le fait d'être fascinés, mais pourquoi les civilisations... on va dire toutes les mythologies et beaucoup d'histoires post-mythologiques vont utiliser le dragon, et quelles sont les fonctions de ces dragons. Est-ce qu'on peut, en Occident à tout le moins, tirer des fonctions principales au travers des récits, puisque le dragon n'existe qu'au travers des récits qui vont parler de lui et va se constituer au travers de ces mêmes récits, sinon on ne serait pas là aujourd'hui pour l'évoquer. Et les éléments qui reviennent, et en tout cas ceux que moi ceux qui m'ont séduit et ceux sur lesquels j'ai plus particulièrement travaillé, c'est que le dragon d'abord les histoires de dragons mythologiques et religieuses, parce que autant tous les héros ont eu leur dragon à vaincre, autant les saints du christianisme, qu'on a voulu remonter au rang des héros de l'Antiquité, ont tous, pour la plupart d'entre eux, eu à vaincre un dragon. Au lieu de le vaincre avec une épée ou un pieu, ils l'ont vaincu avec une étole autour du cou, ou la prière, ou une imposition des mains. Mais dans les vies de saints, beaucoup d'entre eux ont eu à devenir des héros, des sortes aussi de divinités, en combattant un dragon. Donc il y a ce dragon à combattre. C'est le seul animal, si on prend le dragon, qui vit dans tous les éléments à la fois. Le feu, l'eau, l'air. On a des dragons à terre, des dragons qui volent, des dragons à pied, des dragons à queue, des dragons machin. Il a les dragons que les saints ont vaincus, on peut en voir. Il y en a encore dans quelques églises de France. Ce sont des crocodiles ramenés par les croisés. Et on dit voilà le dragon de Saint-Bertrand. Et c'est un crocodile ramené par les croisés. Et du coup, l'idée qui me paraît être aujourd'hui la plus juste, c'est que le dragon symbolise le chaos universel, et comme les géants, quelque part. C'est-à-dire qu'on est vraiment une nature chaotique, sauvage, qu'il va falloir civiliser. Ce qui expliquerait d'ailleurs que les héros grecs, civilisateurs, ont eu à vaincre, et d'autres, je pense à Sigurd aussi, etc., pour les héros germaniques, ont eu à vaincre des dragons. On ne construit pas Thèbes sans vaincre d'abord le dragon. Le dragon, il est là avant tout le reste. Et si c'est une divinité, c'est une divinité topique. C'est une divinité du terroir. C'est une divinité attachée à la terre elle-même et qui défend cette terre. Et il va falloir se battre contre le dragon pour civiliser la terre. Voilà, c'est vraiment l'idée, l'idée principale que l'on peut dégager de toute, pas orientale, j'ai pas travaillé dessus, asiatique, mais de toutes les mythologies, occidentales. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que les mythes de dragons, c'est-à-dire ah oui, il y a un dragon qui a fait ceci, cela dans tel lieu, etc. Le pays dans lequel au monde il y a le plus de dragons, c'est la France. Bien avant l'Asie, l'Europe est le pays des dragons et la France porte le plus grand nombre d'histoires de dragons, essentiellement à cause ou grâce aux saints qu'on appelle les saints sauroctones, c'est-à-dire les saints vainqueurs de dragons. Ils sont tellement nombreux qu'on a dû leur donner un nom. Voilà.
Donc la France est la fille aînée des dragons.
Voilà.
Ça, c'est... Là, nous venons, je crois, d'apprendre quelque chose.
Non, c'est Béranger Ferraud, le folkloriste, qui a fait une étude sur, pays par pays, le nombre d'histoires et de légendes de dragons, et qui démontre que la France est le pays d'Europe et du monde dans lequel on a le plus de lieux légendaires, de trous, etc., avec des dragons ou des grands serpents, drago quelque chose. Dragomorphe.
Pierre Pevel, vous qui êtes donc le grand dragonnier de France,
moi, je peux donner qu'une réponse parcellaire à ma fascination pour les dragons, parce que bon, d'une part, elle est évidente statistiquement parlant, c'est une fascination de lecteur ou de spectateur. C'est pas tellement une fascination d'auteur. Si j'aime le dragon, c'est parce que je me souviens encore d'un des plus beaux dragons du cinéma, à savoir celui du dessin animé La Belle au bois dormant. Lorsque la reine crie non, cela ne sera pas, qu'elle se dresse, qu'elle se transforme en dragon, c'est un moment vraiment extraordinaire. Bon, le dragon, sinon il y a des raisons intellectuelles probablement. On peut projeter un peu tout ce qu'on veut dessus. Il peut prendre toutes les formes que l'on veut. On l'a vu, hein, être créature monstrueuse ou humaine, en tout cas civilisée. Bref, il peut être un peu tout. On peut aussi se poser des questions, l'aborder sous un angle presque rationnel, se dire ben, comment vole-t-il, comment se nourrit-il, comment évolue-t-il, ou alors l'admettre dans sa dimension purement mythique de créature merveilleuse. Et les deux aspects sont aussi intéressants. Moi, je me situe plutôt dans une dimension mythique, légendaire. Si on me dit, mais non, avec cette envergure d'aile, le dragon ne peut pas voler, moi, ma réponse, c'est va le dire au dragon.
Xavier Bouméjean, la fascination des dragons, et je sais que vous avez rencontré, vous connaissez aussi un autre auteur qui a éprouvé une fascination, vous pourriez peut-être nous en dire un mot.
Avec grand plaisir. Juste une petite chose, il y a Dracula quand même, si on l'a oublié. Dracula n'est pas le nom du seigneur roumain, c'est son surnom, c'est même le surnom de son père. Son père était Drac, leur nom c'est Vlad Tepes. Et son nom, le nom du père, le surnom était Drac, le dragon, et Dracula, c'est le fils du dragon. Donc, si on peut le faire venir dans cette table ronde, ça c'est pas plus mal. Il y a de la place. Oui, alors, jeudi soir a commencé à Paris l'exposition Henri Darguer, qui est un peintre qu'il faut absolument découvrir, qui est un homme qui est mort dans l'anonymat total. Il avait travaillé dans des hôpitaux à Chicago pendant toute sa vie. Et en vidant littéralement son immeuble, il fallait deux camions Ben, on s'est rendu compte qu'il y avait des peintures et des manuscrits. Et il s'avère que Darguer va probablement, s'il ne l'est déjà, être connu comme l'un des plus grands peintres américains contemporains. Et j'invite tous ceux qui le peuvent à aller à Paris, au Musée d'Art Moderne, voir l'exposition, où il y a les fameux Blengins, qui sont des dragons qu'il a inventés, qu'il décrit dans ses manuscrits et qu'il peint dans ses tableaux, et qui sont des gentils serpents. Il reprend l'idée du serpent des origines, du Jardin d'Éden, qui étaient des serpents magnifiques, avec des serpents dragons, avec des ailes de papillon, etc., et qui, suite à un cataclysme terrible qui fait que certaines nations, sur le modèle de la guerre de sécession américaine, vont massacrer des enfants dans les pires conditions possibles, vont prendre la défense des enfants. Et ces dragons sont absolument magnifiques. Il y a des dragons chats, il y a des dragons aigles qui sont absolument stupéfiants. Et petit à petit, ces dragons, au fil des années d'Henri Darger, ils vont s'humaniser physiquement et ils vont prendre des apparences de filles avec de magnifiques cornes de bouc qui sont complètement tordues et des ailes de papillon et qui sont donc des défenseurs de l'enfance quand l'enfance est torturée et bien pire hélas par les adultes. Et je voudrais dire que dans le cas de Darger, le dragon, c'est une figure totalement positive et qui est le gardien bienveillant de l'enfance et qui protège l'enfance des troubles, des tortures et des sévices que Darger, dans les différents asiles où il a été enfermé enfant, a probablement connu. Et je vous invite même à faire un simple Google image. Vous rentrez Henri Darger ou Blengins, B-L-E-N-G-I-N-S, et vous verrez que ce sont des dragons totalement originaux puisqu'ils sont purement créés par lui et qui sont stupéfiants. Voilà.
Vous connaissez ce peintre? Donc nous allons
tous
le découvrir.
De Chicago. Grand. Et un grand écrivain de fantasy, très influencé par le magicien d'Oz.
Donc nous allons tous nous étudier Darger.
J'ai l'impression d'avoir jeté un froid, je suis désolé.
Non, tout le monde a noté.
Venir sur les violences faites à l'enfant, c'est toujours une bonne idée sur une table ronde.
Surtout à la fin d'une table ronde, ça...
Quelqu'un aurait pu créer spoiler, ça nous aurait évité ça.
Je sens que le coup du spoiler va me suivre pendant longtemps, parce que d'habitude, Dieu sait que je fais attention. Marie-Charlotte Delmas, Robin Hobb a évoqué tout à l'heure la passion coupable que nous avons tous les deux pour les ovnis. Est-ce que vous pourriez nous parler du dragon contemporain, du dragon ovni?
Alors, une autre piste de travail intéressante, qui n'est pas de moi d'ailleurs, puisque j'ai travaillé avec un physicien qui était spécialiste des failles spatio-temporelles, enfin travaillait là-dessus, et qui voulait confronter justement sa théorie à certaines apparitions d'êtres surnaturels. Et c'était très intéressant de prendre ce point de vue sur les dragons, parce que j'ai fait donc une série de recherches et j'ai trouvé beaucoup de dragons ovnis, on va dire. Voilà, on va le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages très intéressants. Il y a par exemple un témoignage à la fin du XVe siècle. On est dans une abbaye, donc dans un monastère. Ce sont les chroniques du monastère, voilà. Et on raconte que le démon, parce que le problème c'est que tout étant démon, c'est très difficile de savoir de qui il est question. Donc le démon sous la forme d'un dragon, hein, le dragon c'est aussi le dragon de l'Apocalypse, n'oublions pas. Donc le démon sous la forme d'un dragon arrive du ciel, tombe sur la partie sanctuaire, la partie église du monastère, met le feu. Et que ce démon a des écailles très très dures, donc on ne peut même pas l'atteindre, on a envie de dire comme de l'acier, voilà, qui brille, ce dragon, hein, et qu'il a, il a un vrai culot, parce que non seulement il fait effondrer le monastère et il met le feu, mais en plus il repart. Et on le voit tout d'un coup repartir et disparaître dans les airs. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les chroniques de l'abbaye vont interroger les chroniqueurs de l'abbaye, ou je ne sais plus, je crois qu'il l'a publié d'ailleurs, ça va aller. Et donc, vont voir les paysans du coin et pour dire, il y a un dragon, un dragon-démon qui est tombé, voilà, ça a été incendié. Et les paysans qui ne croient plus au dragon, bien entendu, disent tous dans un grand cœur, machin, c'est une vouivre. C'est une vouivre parce que la vouivre, c'est pas un démon, c'est une vouivre. Parce que la vouivre, elle a une particularité, c'est qu'elle porte au milieu du front, on va dire un diamant, une pierre précieuse, on ne sait pas trop quoi, mais quelque chose qui envoie un rayon lumineux très loin et qui lui permet de se diriger dans la nuit. Donc voilà un des exemples, il y en a d'autres, j'en ai relevé dans l'Antiquité, je travaille là-dessus, je les collecte pour en faire un ouvrage, parce qu'il y a ça, il y a les rondes de fer, enfin il y a d'autres apparitions surnaturelles qui peuvent ressembler, ou qu'on peut rapprocher de la typologie des apparitions d'autres types, on va dire, mais ça c'est très intéressant, et en tout cas la vouivre, tous les témoignages qu'on a sur la vouivre à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire que ce sont des témoignages, voilà, tous les témoignages qu'on a sur la vouivre, c'est toujours pareil, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle se cache dans les trous, donc sous la terre, hein, puisqu'on ne la voit pas, etc. Et on la voit parce qu'elle a toujours ce rayonnement, voilà, ce diamant, donc, qu'on va essayer de lui voler, etc. Mais ça, après, c'est la légende, le conte, voilà, qui lui permet de se diriger dans le ciel. Et on a des témoignages de vouivres, on en a énormément, beaucoup en Franche-Comté, pas mal en Lorraine. Il y a des pays où on en a bizarrement, c'est un animal qu'on voit moins. Alors que le basilic, lui, le basilic, il n'a pas du tout les mêmes propriétés, c'est un petit dragon. Donc il garde du dragon la fascination du regard et la laine. Le dragon, il ne crache pas du feu, il a un souffle pestilentiel, ce qui est différent. Parce que ces animaux, comme d'autres, d'ailleurs la belette, etc., sont des animaux tueurs. Et donc c'est par leur haleine qu'ils tuent. C'est la grande théorie médicale des humeurs au Moyen-Âge. Ils tuent par leur humeur, leur haleine, leur mauvaise humeur, ça vient de là. Et du coup, le basilic garde ça, il tue le premier qui regarde, l'autre, si on le voit avant, on meurt. Hein. Mais ces vouivres-là sont tout à fait particulières et reconnaissables par leurs écailles, le fait qu'elles volent et le fait qu'elles s'éclairent dans le ciel. Voilà, donc un exemple, il y en a plein.
Merci. Robin Hobb, juste une dernière question. Alors, vous êtes, mais qui est peut-être un peu trop en avance, mais là, vous êtes en pleine rédaction en ce moment du Fou et de l'Assassin. Est-ce que vous pensez qu'ensuite, un jour, vous reviendrez au Dragon ? Ça, c'est pas un spoiler. Non. Là, non.
This will not be a spoiler. I will say that in earlier books, we have seen a major predator reintroduced into an ecological system, and you can't do that without feeling it all down the food chain. So, if I have a beef cow and there is a hungry dragon, there's going to be interaction.
OK. Merci, Robin. Voilà, ça, c'était un scoop et non pas un spoiler.
Donc, il ne s'agira pas de spoiler. Je dirais simplement que dans les livres précédents, on a vu la réintroduction d'un prédateur majeur dans l'écologie et que c'est un événement qui ne peut pas rester sans engendrer des répercussions tout le long du réseau alimentaire. Si, par exemple, je suis un paysan avec une vache et qu'il y a un dragon dans le coin, il est probable qu'il y ait une interaction.
Voilà. Mais écoutez, l'heure a passé très très vite avec nos participants. Donc je crois qu'il ne nous reste qu'à les remercier.